ma foi, j'y crois. Ma foi, j'y crois.
Ma foi, j'y crois.
Une émission de Benoît Petit.
Aujourd'hui, avec Isabelle Garcia Chopin. Bonjour madame, je devrais dire bonjour Isabelle. Vous venez nous apporter un sourire, plein de sourires. Vous êtes auteur, photographe, documentaliste et vous intéressez principalement aux enfants moines que vous avez rencontrés dans l'Himalaya.
Bonjour.
Et vous venez aujourd'hui parce que vous allez dédicacer à la librairie de la Trinité, que je ne présente pas aux auditeurs de Radio Présence, mais aux autres places de la Trinité, plusieurs livres que vous avez publiés. Et le dernier d'ailleurs qui m'intéresse au plus haut point, parce que c'est chez Privat Jeunesse, n'est-ce pas ? Sur la méditation.
Oui, tout à fait. C'est un livre qui s'appelle « Dessine un sourire sur ton visage » et qui va paraître le 4 novembre.
Dessine un sourire sur ton visage, c'est beau. Vous nous avez apporté aussi un livre, c'est sur les enfants moines au Tibet.
Voilà, il y a eu deux ouvrages qui ont paru aux éditions Glénat, notamment « Enfants moines, rencontre dans l'Himalaya » et en jeunesse « Le maître des neiges » qui est un conte spirituel qui nous promet un délicieux voyage sur les montagnes les plus hautes. Et qui nous parle de réincarnation selon la tradition bouddhiste tibétaine.
Avec des superbes images. Et puis aussi cette initiation, parce que ça commence par un deuil, et il y a un enfant et le vieux maître qui vont chercher.
Qui vont chercher la nouvelle réincarnation, en fait, le successeur. Et c'est vrai que dans la tradition bouddhiste tibétaine, lorsque un grand maître disparaît, eh bien, on va se mettre en quête de retrouver son successeur.
Oui, mais là, vous commencez à me fâcher et à fâcher. Moi, je suis sociologue agnostique dans mon travail, mais je sais que nous parlons à des catholiques qui disent « tu mélanges tout le temps dans tes émissions, c'est pas sérieux. La réincarnation, c'est pas la résurrection, la vie éternelle et la chair. » Mais bon, je vous entends, je vous écoute.
Mais vous savez que la croyance à la réincarnation est une des plus vieilles croyances de l'humanité.
Il y a ceux qui pensent que... il n'y a rien après la mort, c'est le néant, c'est le vide absolu et que nous sommes amenés à être poussière. Votre papa était athée ?
Il est toujours athée, il est toujours mon papa athée.
Et vous avez de longues discussions avec lui sur la transcendance, sur
j'ai
la
eu
métaphysique ?
J'ai eu des longues discussions, mais en fait, même si moi, dans ma culture, la réincarnation n'est pas forcément de mise, très jeune, enfant, pour moi, c'était une évidence. C'est une évidence que... il y a une continuité, c'est une évidence qu'il y a d'autres vies auxquelles j'ai pu avoir accès. Pour moi, je ne suis même pas passée par la case croyance, mais je dirais plutôt...
La croix.
Voilà.
La
j'ai plutôt passée
douleur.
Par la case évidence. Voilà.
Oui,
c'est une intime conviction.
Voilà. Pour moi, ce n'est pas évident, et surtout qu'il y a un mois, à l'Institut Vajra Yogini, plusieurs personnes sont venues nous parler de cette recherche pendant deux jours avec Jean-Yves Leloup, docteur en philosophie, en psychologie, qui est passé dans le monde entier à travers même les athées et les terroristes. Il a écrit un très beau livre sur le kamikaze, ou plutôt le terroriste, et lui-même. Il a réussi à sauver de la chapelle Sixtine une bombe. Excusez-moi, je diverge. Mais santé du corps ou de l'âme, santé de l'esprit ou de l'être humain, il y avait un séminaire très important sur ce qui fait notre paix intérieure. Et je crois que c'est ça que vous venez nous apporter et que vous laissez transposer à travers vos dessins et vos livres. Vous y croyez ? Ma foi, j'y crois. C'est vos convictions.
C'est une intime conviction, oui. Oui, tout à fait. Oui,
mais
oui.
Moi, vous savez, quand j'ai essayé de discuter avec trois insectes tigres tout à l'heure dans mon figuier, et lorsque j'en ai quand même tué deux sur les huit, je me dis, mais qui je suis en train de tuer dans sa réincarnation ? Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal, mes moustiques ? Mais en même temps, je dois me défendre. Donc, je suis partagé, je suis vraiment ambivalent. Alors bon, il y a ce côté sociologue qui ressurgit parfois, qui me dit, bon, t'as la raison, mais t'as le cœur. Et la raison, il cherche à tout expliquer, puis le cœur, il cherche à comprendre, mais entre le cœur et la raison, il y a les sentiments, il y a l'âme. Ce que vous essayez de, peut-être de transmettre aux enfants qui ne peuvent pas rester 10 ou 12 minutes en silence dans une classe et qui ne peuvent pas écouter ce que dit le maître.
Disons que la méditation, si vous voulez, c'est un merveilleux outil qui permet un retour sur soi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans les sociétés à l'heure actuelle dans laquelle on est, où tout est toujours en mouvement, où il faut aller de plus en plus vite, il est important, notamment pour les enfants, d'avoir un petit moment comme ça à soi, où on va un petit peu déconnecter de toutes les stimulations qu'on peut avoir de l'extérieur.
Le téléphone, l'ordinateur, tout ce qu'on va faire après la classe.
Voilà.
Revenir à soi pour être attentif, d'abord à soi-même, aux autres, et à ce que peut-être va nous dire le maître.
Le maître intérieur.
Ah, le maître intérieur.
On pourrait parler le maître intérieur, avant toute chose en fait.
Mais vous avez rencontré un lama. Qui a été à l'origine d'une conversion, on dirait, ou plutôt vous vous êtes retrouvé, va vers toi, dit Yahvé à Abraham, va vers toi.
Je dirais que le bouddhisme est venu à ma rencontre. Voilà. C'était la première fois, c'était en 2004. C'est un ami qui m'a proposé d'aller visiter justement le château de Vajrasyogini, donc l'institut.
Près de Lavaur.
Près de Lavaur, à Marsens exactement, à quelques kilomètres de Lavaur. Et voilà, c'est vrai que j'ai trouvé un lieu qui était, ma foi, fort intéressant. Et puis, petit à petit, je suis allée à l'occasion pour suivre des premiers enseignements, mais d'une manière assez épisodique, sans vraiment m'engager. Et puis en 2011, je suis partie au Népal faire un film documentaire sur les modes de vie dans les moyennes vallées. Et là, belle surprise, sur ma route, j'ai eu la chance et le bonheur de pouvoir découvrir un monastère qui s'appelle le monastère de Tarig. Et là où j'ai découvert la première fois de ma vie, des enfants moines. Et là pour moi, ça a été, je dirais, un instant d'amour pour l'éternité. Voilà, c'est des rencontres très très fortes qui après peuvent amener à un bouleversement intérieur avec des émotions très très fortes. Et je serais tentée de dire que pour moi, c'était des retrouvailles. Parce que tout était d'une fluidité. Je me suis rarement sentie autant accueillie que j'ai pu l'être accueillie dans ces monastères, aussi bien dans les temples. Voilà, les portes étaient tout le temps ouvertes. Et voilà, et donc j'ai pu ramener de magnifiques photos qui sont vraiment un témoignage vivant de ce qui m'a été donné de voir et de partager avec toute cette communauté tibétaine.
Il y a du particulier, il y a une forme peut-être d'universel. Si moi, par exemple, je comparais avec les religieux au Vietnam, avec les enfants talibés, avec ces mendiants dans les rues à Bogota ou en Amérique latine. Mais vous, plutôt, c'est l'appel des trompes, le silence envoûtant des temples, l'ivresse des hauts plateaux himalayens.
Oui, c'est vrai que la particularité du bouddhisme tibétain, c'est son côté chamanique. Et c'est vrai que lorsque on assiste à des pujas, donc ce sont des célébrations, vous avez les moines musiciens qui vont ponctuer le rituel avec les grandes trompes, les longues trompes télescopiques qui peuvent faire jusqu'à 4 mètres de long, pardon. Et c'est vraiment des sons qui sont très envoûtants. Vous avez les tambours, vous avez les hautbois, les cymbales. Donc vraiment, il y a une myriade d'instruments à vent qui fait que vous êtes... en tout cas, moi, je suis emportée vers un ailleurs.
Vous parlez de chaman, vous parlez d'envoûtement. Bon, mon côté rationnel dit, mais le chaman, c'est les gourous. L'envoûtement, c'est la secte qui enferme et c'est l'enfer.
Non, je parle que
ça... Étant libre, et Dieu, dans tout ça, qui nous demande l'obéissance, la soumission, ou qui nous demande que sa volonté soit faite ou soit faite.
Soit faite.
Selon que j'écris F-E, accent circonflexe, parce qu'il nous appelle à la joie.
Bien sûr, bien sûr, bien sûr.
Bien sûr, c'est pas tout le monde qui est convaincu de cela.
Et dans le bouddhisme, regardez le Dalai Lama, c'est un homme qui est toujours souriant. Il a cette joie naturelle. Et en plus, je serais tentée de dire que c'est une caractéristique aussi des peuples himalayens qui m'a été donnée de voir tant au Népal ou au Ladakh. Où vraiment ils ont quand même une vie qui est quand même assez difficile, assez rude. Et malgré cela, ils vous accueillent avec un sourire, une simplicité, une authenticité qui est assez désarmante, ma foi. Et je crois que c'est ça qui donne envie aussi, après, de retourner dans ces régions-là, Et notamment, bien sûr, après avec les magnifiques paysages.
La pauvreté n'est pas la misère et la dignité de l'homme, c'est ce qu'il recherche à l'intérieur de lui-même, dans son contact aussi avec les autres. Et alors, votre religion, ou en tout cas votre représentation du monde, c'est plutôt une sagesse qu'une philosophie? C'est la poésie? C'est ce
deux.
Sens du mystère que vous recherchez?
Disons, c'est la quête...
Du bien-être, peut-être, sûrement.
C'est surtout la quête de soi, c'est-à-dire cette quête existentialiste sur qui suis-je.
L'expérience de la vraie nature des choses. Connais-toi toi-même, tu connaîtras le monde et les dieux.
Et les
souvent,
dieux.
On ne dit que la première partie de la phrase, mais je crois que ces trois dimensions sont déjà tout un appel à une vie heureuse et à un combat spirituel, ce que certains appellent le djihad au sens noble du terme, le combat spirituel qui nous amène, alors bien sûr à travers certains rites. Donc on va voir le folklore avec la stupa, ces monuments dont vous nous avez mis un exemple,
oui.
Sur le site de Radio Présence pour
alors
podcaster.
Là, c'est le stupa de Bodhnath, donc c'est un des plus grands monuments reliquaires du Népal. Et vraiment, c'est un lieu emblématique pour les fidèles, hein, aussi bien pour les Népalais que pour les hindouistes. Hein. Le soir, vers les 18h, vous avez les fidèles qui viennent se réunir autour du stupa et qui font le tour de celui-ci dans le sens des aiguilles d'une montre, pendant des minutes et des minutes, en récitant des mantras et en faisant des offrandes d'encens et des lampes à beurre. Et c'est vrai que ces soirs-là, on a l'impression que ça ressemble à une fête foraine. Tellement que c'est enchanteur. Voilà, c'est vrai qu'il y a une magie particulière et quand je reviens chaque fois au Népal, je prends mes quartiers à Bodhnath et c'est vrai que dès que j'arrive, la première chose que je fais, je dépose mes bagages et je vais faire mon tour autour du stupa pour retrouver cette magie, cette ambiance qui est vraiment très très spirituelle et très particulière à ce lieu-là.
Ces bougies porteuse de lumière et de sagesse, mais il faut y croire. Certains m'ont dit, oh, nous on a Lourdes, pas besoin de tout ça, et on a le chapelet, et on va réciter cette incantation qui nous permet de trouver l'accès d'abord à la paix intérieure et l'accès peut-être à la divinité. Et puis d'autres disent, on va tourner autour de la Kaaba et nous ferons foule, et nous savons que nous sommes le peuple des sauvés. Alors, je respecte chacune de ces croyances, et vous trouvez votre liberté et vous parlez de ces échanges avec les autres sans vouloir nous convaincre.
Non, bien sûr.
Mais en nous apportant votre paix intérieure. Et d'ailleurs, vous nous avez apporté aussi une superbe musique que vous allez commenter.
Oui, je vous ai apporté un extrait d'un morceau de musique de Dakan, donc qui a été enregistré au monastère de Kopan au Népal, de l'école Gelugpa, de la traduction Gelugpa. Et en fait, c'est un morceau de musique dans les rituels, donc au temple. Ça s'appelle Invocation Protector.
Nous l'écoutons, merci.
Thank you.
Ma foi, j'y crois, avec Benoît Petit.
Aujourd'hui avec Isabelle Garcia-Chopin. Madame, vous êtes auteure, j'allais dire féministe, bon, à votre manière, mais sans plus, et en même temps photographe, documentariste. Vous venez nous parler de ces enfants moines et que vous avez rencontrés dans l'Himalaya. Revenons à cette musique qui vous a presque mise en transe, en tout cas qui vous a mis dans un moment de bonheur.
Bien, pour moi, c'est vrai que chaque fois que j'ai eu le bonheur et la chance de pouvoir assister à des rituels, aussi bien au Népal ou au Ladakh, c'est vrai que bien, voilà, ça nous transporte, ça vient parler dans les profondeurs de notre être, enfin, en tout cas pour moi et je l'espère en tout cas pour d'autres. Et c'est une façon aussi de me relier à toutes ces déités qui font partie du panthéon bouddhique.
Qui a tué la haine en vous? Mais on dirait que vous n'avez pas d'ennemis.
Non.
Vous n'avez jamais rencontré d'adversité, alors c'est le bonheur. Mais vous êtes en dehors de la réalité, Isabelle.
Si,
regardez
dans la réalité.
Et au Tibet, entre autres.
Et au Tibet qui continue justement à être un peuple opprimé et qui continue aussi à fuir toujours, aussi bien à se rendre au Népal ou en Inde. Et malheureusement, la situation perdure. Mais tout est impermanent et semble-t-il que très certainement un jour la situation se transformera en de meilleurs jours pour ce peuple du Tibet.
Le bouddhisme n'est pas une religion et en même temps il y a des textes sacrés, il y a des récitations de prières. J'aime beaucoup ces drapeaux, je vous ai interrompu, on reviendra sur des drapeaux qui pendent.
Des drapeaux de prière, oui.
Même quand on n'est pas là, il prie pour nous.
Il prie pour nous, voilà, on appelle ça les langta, les chevaux de vent. Et en fait, ce sont des petits fanions, des petits bouts de tissu colorés sur lesquels sont dessinés les chevaux de vent, justement, et des mantras. Et c'est grâce au vent, si vous voulez, ça va, le vent va faire bouger les drapeaux, hein, c'est le principe. Et donc, ça va permettre de diffuser les prières dans les cieux et au niveau de notre cœur et de notre esprit.
Comme le vent traverse fait sonner, les tintinabulés, on dirait.
Les clochettes, tout à fait.
Les clochettes. Oui, mais il y a les corvées inhérentes à la vie en communauté. Il y a
bien
la
sûr,
toilette, il y a les repas de ces enfants. Qui a décidé pour eux qu'ils seraient moines?
Alors, ça, c'est une très bonne question. Je vous remercie de la poser. En fait, au Népal, il y a une chose importante à prendre, si vous voulez en compte, c'est que au niveau économique, c'est un des pays les plus pauvres au monde, le Népal. Et bien souvent, les enfants qui sont confiés au monastère, c'est parce que les familles n'ont pas les moyens de subvenir aux besoins de l'enfant. Et malheureusement, confier un enfant au monastère, c'est aussi une bouche de moins à nourrir.
Quand il n'y a pas de contraception, comme je vois certains villages d'Afrique.
Oui. Et donc, en fait, vous avez soit les enfants qui sont confiés au monastère parce que là, ils vont recevoir une bonne éducation. Et après, vous avez à peu près, c'est peut-être 10%, hein, je parle attention au Népal, vous avez à peu près 10% où là, c'est vraiment la vocation.
Et un monde rempli de sourires avec une invitation à la contemplation, des récréations et des jeux. Mais tout le monde peut partir, sortir à l'adolescence ou un peu plus tard. Certains seront moines, toute leur vie, des vœux.
Les enfants, donc, voilà, quand ils vont grandir, vont être ordonnés moines à l'âge de 20 ans. Et s'ils veulent, ils peuvent rester ou ils peuvent partir. Et bien souvent, ils vont rester. Pourquoi? Parce que durant toutes ces années d'apprentissage, ils n'ont pas vraiment appris un métier. Là, ils ont reçu une bonne éducation et ils vont continuer leur parcours spirituel. Et sinon, pour les autres, ils peuvent revenir à la vie laïque.
Vous les avez côtoyés, vous avez dialogué avec eux,
J'ai joué avec eux, j'ai participé à certains leur rituel du matin, que ce soit la prière au temple à 5 heures du matin, le petit déjeuner, les repas. J'ai même pu assister au début à certains cours avec certains professeurs.
Et tout ça, vous nous l'avez présenté dans ce livre chez Glénat, les enfants moines rencontrés dans l'Himalaya. Ça sera donc le samedi Alors, de la semaine prochaine.
Voilà, donc le samedi 20 novembre à la Trinité de 16h à 18h, j'aurai le plaisir de rencontrer le public pour une dédicace sur le livre Enfant moine, mais aussi le Maître des Neiges et puis le tout dernier livre Dessine un sourire sur ton visage aux éditions Priva Jeunesse.
Et en même temps, ce n'est pas seulement de la littérature, c'est aussi un atelier de méditation que vous organisez avec plusieurs personnes. Mais alors vous dites, attention, la laïcité, la France, société laïque qui va contrôler l'exploitation du travail des enfants, ou bien qui permet à chacun... Ah, je vous vois faire un gros rictus là, j'ai dit quelque chose qui n'allait pas. De laïcité, c'est...
On ne va pas travailler, ça va être ludique avec les enfants, il faut être ludique, surtout lorsqu'on va aborder la méditation. Donc c'est vrai, effectivement, j'ai le projet donc, de lancer une classe pilote dans une école primaire avec un instituteur qui est bouddhiste, qui suit aussi des enseignements avec moi à l'Institut Vajra Yogini. Donc l'intérêt, donc, c'est de suivre un petit peu le parcours évolutif par rapport à ce que va leur apporter la méditation sur les différents mois à venir. On va faire ça sur toute une année scolaire.
Oui, la liberté d'expression dans les classes, c'est un sujet compliqué parce que aussitôt certains enseignants, instituteurs ou professeurs vont dire oh, on n'est pas formé pour ça, puis de toute façon on ne sait pas faire. Mais de plus en plus, il y a une nécessité, un appel à cela.
Il y a une demande, il y a vraiment une demande. Bien sûr. Et puis les enfants sont aussi en demande d'un retour au calme, si je puis dire. Hein. Comme vous disiez tout à l'heure, les enfants sont de plus en plus devant les écrans.
Et vous avez aussi un goûter zen.
Voilà, on a eu la chance de pouvoir faire un goûter zen au musée Georges Labitte, qui était il y a quelques semaines.
Donc ça marche, c'est important.
Et ça marche.
Il faut renouveler ses expériences.
On va le renouveler. Voilà, pendant une heure, je suis avec les enfants. Je présente le livre « Dessine un sourire sur ton visage ».
Il y aura du thé salé comme en Himalaya.
Et puis voilà, à la fin, il y a un goûter parce que ce sont des enfants et que le goûter est un rituel important dans la vie d'un enfant, mais pas que, aussi chez les adultes et notamment pour moi.
Et alors, voilà. Vous allez trouver du beurre salé de Dri, la femelle du yak.
Voilà, tout à fait. Oui, 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 c'est la Dri.
Bravo.
Et au Ladakh, on appelle ça le gourgour, en fait. C'est du beurre qui est assez rance. Et en fait, c'est vrai que pour nous, occidentaux, lorsqu'on n'est pas habitué, les premières gorgées sont un petit peu difficiles à avaler, justement, parce que ça a un goût très particulier. Mais c'est très nourrissant.
Alors, vous reviendrez nous parler de tout cela parce que c'est une culture que nous connaissons assez peu, avec plein de préjugés. Mais vous nous redites que le Bouddha, c'est celui qui est éveillé, qui nous permet d'ouvrir les yeux.
C'est l'éveil, oui, c'est l'éveillé.
Sur la véritable nature des choses.
Surtout sur notre véritable nature.
Sur notre intimité. Va vers toi, dirait Yahvé à Abraham, retrouve... la santé, même malgré les deuils et malgré la souffrance. Bouddha ne savait pas, avant sa conversion, que les fleurs se fanaient et qu'il y avait des mendiants dans les rues. C'est ça qui l'a amené à cette conversion, qui nous appelle, nous aussi peut-être, à rencontrer les autres,
Bien sûr, rencontrer
la nature. Laudato si, fratelli tutti, vous connaissez tous ces...
Et puis surtout s'ouvrir à l'autre avec beaucoup de tolérance et beaucoup de compassion.
Alors, je rappelle pour ceux qui peut-être seraient de ma génération, pas de la vôtre, mais certains connaissent déjà Denis Girard, le bouddhisme à l'usage de mes filles. Il y a bien d'autres livres d'initiation au bouddhisme avec ses visages divers, pas seulement dans les monastères, mais aussi dans sa chambre, quand on peut faire quelques exercices, que ce n'est pas du yoga ou du zen, mais c'est des exercices pour retrouver son intimité.
Tout à fait, tout à fait. La prière, le silence en soi, tout ça, on a tous la possibilité, je dirais même, on a le don d'être calme et silencieux. C'est quelque chose qui nous est donné naturellement. Et on n'a peut-être pas forcément besoin aussi de s'asseoir sur un coussin de méditation ou d'aller dans une salle de yoga, mais on peut très bien s'asseoir au bord d'une rivière et là, être dans un état de contemplation et puis s'ouvrir à plus grand que soi.
La thérapie de l'âme qui parfois peut entraîner au pardon ce qui est un grand combat contre soi-même, mais là où on peut rencontrer les autres. Merci Isabelle pour votre témoignage.
Merci à vous de m'avoir invité, merci.
Merci à Christophe pour l'enregistrement.